Bon. Bon, voilà. Bon. Alors. Ce serait... Est-ce que c'est excessif de dire que vous parlez de la même chose? Sans doute pas, parce que la question du savoir, du rapport au savoir, est celle que Lacan a mis en place avec ce qu'il appelle non-dupe. Enfin, c'est une formulation qui a bien des raisons de mettre en valeur le non-dupe, puisque effectivement il y a dans la critique, parce qu'il y a deux critiques sur le plan institutionnel, si je comprends bien. Il y en a une qui est celle disons du discours le plus courant actuellement dans les institutions, un discours disons très qui ignore la psychanalyse et qui est très hostile. Et puis il y a un autre, c'est un style de maintien de la psychanalyse, mais alors je dirais volontiers dans le style non-dupe, justement. C'est comme ça que je comprends, mais peut-être je me trompe, mais j'ai quand même cette idée. Alors maintenant, on est embarrassé avec quel est le tranchant sur lequel il nous faudrait nous maintenir pour en somme ne pas errer. Tant entendu que après tout, on n'est pas garanti de ne pas errer. Si je vous entends bien, c'est ce que... Alors, là, j'ai pas bien compris. Bon, c'est pas très important. Le travail de l'inconscient, justement, il calcule, il juge, tout ça, non? La question je voudrais arriver à poser une question. C'est difficile parce que alors quand même sur moi, il y a un mot, il y a une chose quand même qui est très curieuse, c'est dans ce séminaire, les noms du père, hein, c'est qu'est-ce que c'est le rapport que Lacan évoque. Là, j'aimerais bien que si vous pouvez nous dire un peu plus sur la façon dont vous comprenez ce que Lacan dit à propos de Freud et de l'occulte. C'est très intéressant parce que d'abord il faut bien dire que l'occultisme est en plein essor. Sous des formes plus ou moins variées, ça va du vegan au... je sais pas quoi. Je mélange assez volontiers, hein, justement, des choses qui sont qui concernent précisément, disons, les problèmes de la croyance. Donc là, moi, j'aimerais bien si vous pouvez dire un mot là-dessus, sur l'occulte, parce que là, il y a un passage qui me semble tout à fait d'actualité. C'est-à-dire sur le traitement de l'occulte et Parce que on a évoqué le, disons le, les un certain type de savoir qui comment dire qui annule toute réflexion, évaluation, etc. On évalue, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on évalue, mais on évalue beaucoup de choses, et on a un résultat de l'évaluation, mais sauf qu'évidemment, on ne sait pas quoi en faire. D'ailleurs, on voit bien, on fait beaucoup d'évaluations, même dans des cas, on fait beaucoup d'évaluations, puis ensuite on leur dit bon vent, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc, ça c'est un mode. Il y a le mode de toutes les modalités. On est obligé de traiter ça. C'est-à-dire pourquoi justement ce qui là est pris sous le mode de l'occulte, mais qui pourrait être disons le rapport aussi, parce que c'est aussi il en parle dans ce séminaire, si mon souvenir est bon, des rapports avec les religions, c'est-à-dire tout ce rapport aux croyances, etc. Et justement, à quoi il faut être dupe exactement? C'est-à-dire, c'est la question. Voilà, ma question.
J'en ai tenté de répondre comme je peux, hein, avec les éléments Freud, il disait qu'il ne pouvait pas accepter la question de l'occulte, mais qu'il ne pouvait pas non plus la réfuter. Et ce qui est apparemment est la connexion qui fait Lacan avec les rapports sexuels et le culte, c'est que c'est pas qu'il est caché, le culte, mais qu'il est ailleurs. Qu'il est ailleurs, ça veut pas dire qu'il existe. Mais en tout cas, la question, c'est que ce n'est pas caché. C'est que c'est quelque chose qui on ne le trouve pas. Quelque chose dont on n'a pas accès. Et dans ce sens, c'est ça qui fait une sorte d'homologation avec les rapports sexuels, justement quelque chose qui n'est pas inscrit. Et par rapport à ça, il parle aussi de pas d'initiation. Pas d'initiation, parce que c'est une question, même s'il y a des rites, de toute façon, c'est une question plus de l'ordre de imaginaire, et que rien de cet ordre peut être inscrit. C'est comme ça que je...
C'est ça. Il faut qu'il y ait quelque part un réel dont elle soit dupe, la bonne dupe. Hein? Quelque part. C'est ça que tout.
Et qu'apparemment, lui, il insistait à chercher des... cette chose occulte, même s'il ne croyait pas. Je ne sais
pas bon. Ça me paraît tout à fait bon. Alors la question est plus terre à terre, c'est-à-dire que... Alors, comment procéder? Ben oui, c'est-à-dire en face de... Oui, mais peut-être que... je sais pas, la façon dont présenter la chose laisse entendre qu'il y a quand même une bonne voie quelque part.
Une bonne voix
avec un E.
J'ai déplié un petit peu ma question. En fait, liée à la question politique, donc cette année à Rennes. Et voilà, c'est un petit peu au cours des différents débats qu'on a eus. Voilà, un certain nombre de questions entre justement le joint entre l'individuel et le collectif qui ont émergé, voilà, qui m'ont mis au travail. Travail de la lecture, un petit peu de. Me repérer peut-être un petit peu mieux dans cette question-là. Mais s'il y avait une bonne voie, j'aurais peut-être la réponse, mais là, je ne l'ai pas. Non, j'essaie de poser la question. Enfin, pour moi, j'essaie de me la poser, puis j'ai essayé de lire un petit peu aussi ce qui avait été déjà écrit dans pas mal de revues champlacaniens, là. Notamment, il y avait la question de la réponse de l'analyste, enfin, les textes de collègues et tout ça. Et je trouve qu'il y a quelques textes, effectivement, qui me semblent poser la question là, de la façon dont quelque chose, en tout cas, du discours analytique peut passer au social, mais pas tant que ça, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis attelé à cette question-là. Des bonnes voix, non, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'en vois des mauvaises. J'en vois des mauvaises. Celles dont j'ai témoigné, effectivement, voilà, c'est... Une réalité institutionnelle qu'on voit quand même, donc une école de psychanalyse qui prend le pouvoir dans des institutions, donc voilà, et c'est, ça a quand même beaucoup d'effets aussi sur d'autres qui suivent un petit peu ce mouvement-là, sur les transferts, sur la question aussi de questionner un certain nombre de concepts, enfin... Ça produit des effets tout à fait féroces, dont on entend parler, que ce soit en contrôle, quand voilà, y a des personnes qui viennent s'inscrire au collège clinique, qui viennent en entretien, qui parlent un peu de leur parcours. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend quand même, qui vient fixer vraiment un chemin quasi imposé, auquel on ne peut pas déroger, et auquel il ne faut pas dire non. Donc voilà, c'est aussi par rapport à... Parce qu'on est concrètement confronté à ça dans nos institutions à Rennes. Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu réfléchir aussi entre voilà, cette psychanalyse-là qui essaye de prendre le pouvoir sur les institutions et dire comment il faut faire. Et à côté de ça, bah, peut-être la question de... Effectivement, l'analyste peut être un petit peu plus à isoler puisqu'il y a une école, mais effectivement... peine peut-être à faire entendre dans les institutions aussi la radicalité quand même de l'offre du psychanalyste. Donc voilà, c'est toute cette tension-là que j'ai essayé de travailler.
Patrick, là-bas. Attends, tu vas. On a tout ce qu'il faut.
Celui-là est là ?
Oui,
alors, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé pendant l'exposé. J'ai écrit parce que j'ai des problèmes de mémoire. Bon, quand on dit que l'inconscient, c'est la politique, hein, c'est quand même une drôle d'affirmation, hein, qu'on prend. S'agit-il à ce moment-là du sujet de l'inconscient? Nous savons qu'il n'y a pas de sujet de l'inconscient, pour qu'on devrait parler de l'assujetti à son inconscient. Hein. S'agit-il alors autrement du désir indestructible, selon Freud? Donc une éthique du désir indestructible, qui n'est pas non plus facile à comprendre. Alors, il s'agit de prendre, ça illustre un petit peu et ça rejoint la phrase d'Aristote qui dit, ou ce qu'il a écrit, que l'homme est un animal politique. C'est la même chose. Il dit la même, nous disons à peu près la même chose que lui. Reste un démontre. En même temps, paradoxalement, Lacan supplie, je crois, son séminaire, supplie que quelqu'un de ceux qui l'écoutent depuis longtemps écrive un traité de l'indifférence en matière de politique. Et là, drôle de truc. Hein. Et alors il ajoute, mais qui serait à la mesure du traité de l'indifférence en matière de religion, de Lamennais. Alors vous savez que Lamennais en son temps a eu un succès fou, tellement fou qu'il a été condamné par l'Église, parce qu'on l'a compris à l'envers. Alors, bon, alors, il ne faut pas comprendre ça trop vite, il faut essayer de déplier ce truc-là. C'est très difficile quand on lit le texte de Lamennais, surtout quand on ne sait pas ce que c'est que la religion, mais il s'est attaqué à un certain nombre de dogmes de la religion. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Et après, il a été viré, on l'a viré. Alors, parlons maintenant de ce que c'est pour la politique. C'est pareil. Il ne faut pas être indifférent en matière de politique. Et là, Lacan propose une solution. Qu'est-ce qu'il propose une solution? Il ouvre une voie. C'est-à-dire qu'il considère que il faut se mettre au service du discours capitaliste. Il nous dit ça. Il faut se mettre au service du discours capitaliste parce que c'est un discours très astucieux. Donc il faut se mettre à son service, mais à la condition d'être capable de lui servir un discours pesteux. Qu'est-ce que c'est que le discours pesteux qu'il faut servir au capitalisme? Et puis,
ça, c'est une référence précise du voyage de Freud en Amérique.
On a compris, c'est la peste. On a bien compris, mais quand même tenir un discours pesteux, c'est difficile. Hein. Parce que même chez les analystes, quand on est pesteux, on n'est pas très bien vu. Hein. On se fait en général canarder. Alors, une autre difficulté vient là. Lacan dit qu'il faut faire très attention. Hein. Il faut faire très attention parce que nous sommes confrontés au discours de la science, et tout spécialement à ces productions de Baudrillard. Et la psychanalyse, face à ça, elle n'est pas tellement bien armée. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement.
Quand c'est la science, c'est davantage on va dire les océans de fausse science.
Non, moi je crois pas à l'histoire de fausse science.
Ah bon.
Même si elle est fausse, c'est de la science, c'est comme ça. Par contre, elle a des effets dans le réel pour chacun. Donc qu'à voir, on est tous avec nos iPhones en train de palper toute la journée comme ça dans la rue. Tout le monde est avec un iPhone maintenant. Nous sommes devenus. L'iPhone n'est plus un gadget, nous sommes devenus les gadgets de l'iPhone. C'est pas pareil. Et c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe. Alors Lacan dit à ce moment-là, il faut faire attention à la religion, parce qu'au moins la religion, elle nous abrite un petit peu, hein, elle abrite la psychanalyse. Voilà, je voulais dire quoi.
Merci. Mais. Oui, c'était dans la suite. Colette.
Deux, trois remarques. D'abord, je crois qu'il faut vraiment distinguer être dupe et la croyance. Ce sont deux choses totalement différentes. Parce que, regardez le paradoxe, Maricella, elle a bien repris les formules de Lacan. Dupe de quoi? Dupe de l'inconscient comme savoir qui se déchiffre, qui nous mène, qui nous marque. Dupe de la structure et dupe de langage et de discours et de leurs conséquences dernières formulées dans la psychanalyse par le rapport sexuel. Bon, soyons dupes de tout ça, mais je vous fais remarquer que tout cela est à élaborer. C'est Lacan qui a élaboré ce dont il faut être dupe. Alors qu'on s'imagine dans le mot dupe qu'on rencontre quelque chose qui est là et qu'on est dupe ou pas. Mais pas du tout. Il faut être dupe de quelque chose qui est à construire et qui est à reconstruire en chaque analyse. En plus, qui n'est pas. Sinon, c'est le savoir à la place du semblant, comme vous disiez fort bien. Hein. Et donc, c'est quand même très paradoxal, cette histoire d'être dupe. Être dupe, soyez dupe, ça veut dire activez-vous. Activez-vous à montrer en acte que l'inconscience est fait de signifiants qui se déchiffrent et qui ont des effets. Donc c'est vraiment quelque chose de très étranger à la croyance, d'une certaine façon. C'est ma première remarque.
Oui.
La deuxième, c'est que je me dis de plus en plus qu'il y a quand même une grosse difficulté pour nous pour mesurer ce qu'est le poids réel de la psychanalyse dans la civilisation actuelle, chez nous. Parce que quand on en parle, soit pour se plaindre du fait que les institutions nous oublient, que les haines se déploient, qu'il y a des livres noirs, que les convictions et que le discours ne parle plus du sujet, etc., etc., au fond, on ne cherche pas à être un symptôme. Cette psychanalyste qui parle comme ça, elle ne cherche pas à être un symptôme, elle cherche à être une notoriété de la société. Et dans ce qui se dit dans la société, il y a une contradiction interne. Alors, d'autre part, notre poids, est-ce qu'on va le mesurer au niveau des convictions? Parce que c'est ça qu'on fait, on prend ce qui se dit, et dans ce qui se dit de la psychanalyse, on n'est pas bien traité. Mais est-ce que c'est ce qui se dit qui est l'index réel de notre influence effective dans la société? Il faut se poser ces questions, parce que devenir un symptôme oublié, ben on ne serait plus un symptôme si on est un symptôme oublié. Et chaque fois qu'on demande cette intégration, cette reconnaissance dans le discours, on demande à cesser d'être un symptôme. Puisque un symptôme, par définition, c'est du poil à gratter. C'est quelque chose qui empêche que ça fonctionne, qui se met en travers, et qui, au fond, il faut revenir à la définition première, qui porte une vérité. Mais on ne peut pas être à la fois un symptôme et être accueilli à bras ouverts dans les institutions du maître. Là, il y a vraiment dans l'opposition quelque chose. Il n'y a pas de solution. Je ne dis pas que ce que je dis mène à des solutions. Je suis sensible à cette contradiction. Notre plainte de non-intégration. Demande de non-intégration dans le discours, hein, dans ce qui se dit, dans les institutions, dans l'appel que l'on fait à nous, etc. C'est contradictoire avec le statut de symptôme, le statut de, comme dit Lacan, de compensation, de poumon artificiel. Il est vrai, alors j'ai bien apprécié ce que vous avez dit, je n'avais jamais pensé comme ça, mais c'est tellement vrai ce que vous avez dit, qu'ils mettent le savoir analytique à la place du semblant, de l'AMP. Je ne dis pas que ça ne se fait pas chez nous, mais ça se fait plus discrètement et de façon plus dispersée. Eux, ils le font, c'est le mariage du S1 et du S2 à la place du semblant. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont un corpus bien établi, et on ne peut pas penser à côté ou en marge. Non, c'est exactement l'opération du discours universitaire, même hors de l'université. Je ne l'étais jamais formulé comme ça, mais je trouve ça très très juste. C'est limpide. Une fois dit, c'est limpide. Retour au discours le plus obscurantiste des quatre. C'est ce que disait Lacan. Le discours de l'université, c'est le discours du maître en plus obscurantiste. Oui. Donc on voit que effectivement, en plus, être dupe du savoir inconscient, l'idée qu'il y a un savoir inconscient se prête à cette opération qui est une opération quand même d'imposture, d'imposture collective. Je ne dis pas par là qu'ils ne sont pas analystes dans leur cabinet, hein, c'est attention, mais collectivement, c'est une entreprise d'imposture. Bon. Et puis, peut-être un dernier mot sur l'occulte, parce que Lacan a toujours prêté lui-même grande attention à ceux qui se sont occupés de l'occulte. Regardez ce qu'il dit de Swedenborg en télévision, regardez ce qu'il dit de Newton commentant le livre de Daniel et le reproche qu'il fait à Kant d'avoir pas pris la mesure de l'intérêt que ça avait. C'était tous des occultistes de première catégorie.
Absolument.
Et donc, pourquoi Lacan s'intéresse tellement à ça? Je crois parce que l'occulte, de façon plus ou moins véridique, ça ménage la place de l'indétermination dans la structure. Dans la structure, il y a de l'indétermination. Il y a du déterminé et il y a de l'indétermination. Et le culte vient, me semble-t-il, vient à cette place-là. Tu veux pas dire quelque chose, le micro est là.
Il n'y a pas d'urgence, mais je veux dire quelque chose. Est-ce que vous voulez répondre devant?
Oui, seulement dire que justement, dans les séminaires, les noms du R et la conception de l'inconscient de Lacan commence à voir une construction. C'est pas seulement quelque chose qui a marqué, mais quelque chose justement qui, par les lire, il y a quelque chose qui s'est construit.
Oui, juste une remarque sur l'actualité actuelle, quotidienne, d'aujourd'hui. Il y a un groupe important de psychanalystes, de nombreux, de toutes les associations, qui se sont efforcés de faire un rapport. Et qui discutent aujourd'hui du titre, parce qu'il y a un mot qui ne plaît pas à tout le monde. Alors le titre, c'est « Rapport sur l'efficacité de la psychanalyse ». Et le sous-titre, c'est « Sur la place des psychanalystes dans la santé mentale moderne et la société ». Et ils sont très nombreux, c'est plutôt de personnes éminentes, c'est pas dans un petit coin comme ça, des gens qui sont venus. Donc vraiment, la question est posée. Alors moi, j'ai une question que je me suis souvent posée, qu'est-ce que vous en pensez? Lacan a commencé, il avait des contacts avec énormément de monde. Le milieu artistique, les surréalistes, les poètes, les savants, et tout ça, ça brassait, et c'était extrêmement chic. Ça avait de la gueule. Et à mesure qu'il a avancé dans son enseignement, il a continué à piocher ce qui l'intéressait, là où il trouvait son bien, mais il s'est de plus en plus isolé, jusqu'à s'isoler, continuer sa présentation à Sainte-Anne. Mais le dialogue avec les psychiatres, peu ou prou, était rompu assez vite dans les autour de après Bonneval. Il y a là quelque chose qui s'est passé avec Henriet. Alors, est-ce que cet isolement de Lacan et de son discours et de son élaboration par rapport à la culture de son temps. Les gens de la culture sont venus à son séminaire. Il y avait Solers, il y avait Jacobson qui est venu le soutenir, etc. Mais le dialogue, ce célèbre dialogue auquel nous aspirons tous tout le temps, le dialogue avec les champs connexes, c'est réduit. Alors, quelle est l'interprétation de ça? Notre, est-ce que c'est inhérent à l'avancée théorique de Lacan qui, à mesure qu'il construisait le discours analytique, effectivement, n'avait plus lieu de dialoguer avec les autres. Est-ce que c'est inhérent à la structure du discours, ou est-ce que c'est un effet contingent, historique, lié à la présence de Lacan? La question se pose d'autant plus, j'en ai deux secondes, qu'après la disparition de Lacan, il y a eu effectivement le grand mouvement auquel nous avons participé, qui s'est appelé la reconquête du champ freudien. Et dont on a maintenant, avec ce que vous nous avez décrit, la caricature. C'est-à-dire des psychanalystes envoyés absolument partout, dès qu'il y a, chez les juristes, chez les enfants, chez les adultes, chez les vieux, partout. Est-ce que, donc, je repose ma question. attention à cette réduction, cette concentration, voire cet isolement du discours par Lacan, est un fait historique contingent ou est-ce que ça tient au discours analytique lui-même ?
Moi, j'ai une petite idée quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est cette opération tout de même politique, alors assez extraordinaire qu'a fait Lacan. C'est-à-dire qu'il a réussi dans un monde... De toute façon, les critiques, là je rejoins ça, les critiques de la psychanalyse, enfin le fait que la psychanalyse soit en quelque sorte dans un rapport difficile avec la société, est là depuis le départ. Donc ça c'est vraiment une constante. Seulement, Lacan a vraiment réussi une opération. C'est-à-dire l'IPA qui était dans un monde clos, réduit, sauf avec l'émergence en Argentine, mais en dehors de l'Argentine, c'était clos. Tandis que, bon, et sur le rapport avec son monde, avec le monde intellectuel que Lacan avait, il faut préciser que ce rapport de c'est un rapport de concaténation qui existait, et parce que c'est plus des oppositions, des discours différents, etc., qu'il avait avec les autres intellectuels, et les autres intellectuels entre eux. Et effectivement, ça s'est défait. Mais ça s'est défait, je dirais, dans tous les domaines.
Partout.
Voilà, pas seulement avec la psychanalyse. C'est-à-dire qu'à l'époque... Il faut dire que l'époque de Descartes, où effectivement la même personne disposait de l'ensemble des savoirs du moment, est un tout petit peu révolue. Bon, et donc... Effectivement, ça, on peut, ça n'existe plus maintenant. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un effet qui n'est pas seulement lié à Lacan, qui est vraiment un effet de dispersion des savoirs, et puis de l'impossibilité de se maintenir à flot en ce qui concerne l'ensemble de ces savoirs. Très peu de gens, même Toussaint de Santi, c'est encore bon. C'est une époque. Hein? Bon, ça existe plus. Des gens qui comme ça maintenaient leur savoir. Hein? Et alors ça, c'est une chose. Quand même sur l'affaire du rapport, je crois que c'est quand même important. Le rapport de l'occultisme et de la croyance. Alors, je suis d'accord que, en effet, c'est pas la même chose. Néanmoins, il y a sur la...
L'occultisme, c'est la croyance, bien sûr.
Hein?
L'occultisme, c'est la croyance.
Oui.
Mais c'est pas la même chose qu'être nu ou pas nu.
Ah, mais ça, c'est... Ça, justement, c'est Lacan qui fait le rapport, hein, entre l'occultisme et... et le non-dupe, hein? Donc je pense qu'il y a bien un rapport avec la question de la croyance sur cette question du non-dupe, parce que
c'est un rapport d'opposition.
Oui,
si tu veux, c'est un rapport, mais c'est un rapport d'opposition.
Ah ben oui, bien sûr.
Ça veut dire être non-dupe, ce n'est pas, c'est pas être dupe, ce n'est pas être croyant. Être non-dupe, ça ne peut pas être un non-croyant. C'est ça que je disais.
Tu avais dit ça, moi ?
Non, moi j'ai dit ça.
Ah, d'accord.
Moi j'ai dit ça et je le répète parce que ce que tu dis brouille les choses.
Bon.
Oui, ce que j'ai dit, moi. Donc, développe ton idée.
D'accord.
Je vais répondre juste à Marc parce que par rapport à la question que vous posiez, là, c'est. Une partie de la réponse est arrivée, mais peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il peut se passer aussi cette modification quand même dans les discours, dans les liens entre les discours, et le fait aussi que l'enseignement de Lacan est allé plutôt du côté de la radicalisation de ce que c'est que l'œuvre de la psychanalyse. Là où moi je me suis interrogé, enfin quand j'ai lu un des articles, c'est une conférence, je ne sais plus, de l'incompréhension, et cette phrase qui dit peut-être qu'il faut un endroit où on parle de ce qu'ils ne comprennent pas, ça fait un peu joke, hein, parce qu'il n'évite pas non plus ça, mais je me suis posé la question aussi de télévision, de radiophonie, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là aussi, c'est-à-dire que quand même, large audience, grande écoute, quand on lit ligne à ligne, qu'on essaye de comprendre quelque chose, c'est déjà compliqué, mais moi, je n'ai pas l'idée de l'effet que ça a pu avoir, j'ai aucune idée de ça. Mais est-ce que ce n'est pas de cet ordre-là aussi, c'est-à-dire faire place à ça et connecter quand même aussi Signe faire la psychanalyse. Enfin, voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais, mais peut-être que c'est...
Très bizarrement, télévision, ça a eu un effet chez le commun des mortels tout à fait extraordinaire. Ouais. Je me souviens de...
C'est assez pisteux quand même, pour le tout venant.
Ah oui.
Télévision, c'est incompréhensible.
C'est incompréhensible, les gens qui ont regardé à la télévision, ils ont compris plein de choses. Alors ça,
ils ont perçu qu'il y avait quelqu'un.
Ils
ont perçu qu'il y avait quelqu'un. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait quelque
chose.
Il y a ce qu'on dit, et puis est-ce qu'il y a quelqu'un?
Moi, j'entends là.
Il y avait Dolto quand même, en même temps, qui dans l'autre sens abondait dans les explications, la simplification. Mais tu l'as?
Ah. Oui, alors il y a une intervention de Lacan que vous devriez connaître, vous connaissez peut-être, une déclaration qu'il a fait à France Culture en 73, dont l'enregistrement est sur mon site et le texte aussi, et où il dit la chose suivante, très simple, moi j'étais très estomaqué par ça, il dit qu'au fond, la psychanalyse n'est pas une science, ça ne nous étonne pas, hein. C'est une pratique d'un discours. Alors, il dit aussi, et ça nous interroge, on a beau entasser toutes sortes de livres, faire des congrès, des colloques et tout le reste, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une expérience de discours, c'est une expérience de la parole. La psychanalyse, elle cherche, elle dit exactement, je reproduis ce qu'il dit, elle permet au sujet de retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire, pas la sienne seulement, pour que l'histoire continue. Alors qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Qu'est-ce qu'on fait quand on va faire une analyse? Moi, cette histoire de symptômes, inconscient, tout ça, ben, on apprend à parler. Les gens qui viennent en analyse, ils apprennent à parler. Et vous pouvez savoir qu'une cure est finie avec un analysant quand un jour il se met à parler, parce qu'il n'a pas parlé avant. Il a jamais... Et les gens ne parlent plus, on ne parle plus. Allez partout dans les magasins, partout, on ne parle plus. C'est fini. Nous sommes des garants d'une possibilité de maintenir la dimension de la parole. Oui. Et c'est dangereux. C'est périlleux pour nous, mais il faut le faire. Voilà.
D'autres interventions, des questions, quand même, allez.
Je crois que Patrick, il a raison de mettre l'accent sur le fait que l'analyse, c'est une pratique. Si tu veux. Et la question que tu posais à propos de la vie intellectuelle autour de Lacan, non seulement, comme a dit Jean-Jacques, l'amortissement, voire la disparition du dialogue entre les disciplines a disparu à peu près partout, en sociologie, en anglais. Les sociologues parlent entre eux, les anthropologues parlent entre eux, les linguistes parlent entre eux.
Il y a tout le temps des trucs voilà, communs, mais en fait...
On fait des semblants d'inter... Comment
appelle ça discipline, mais justement parce que les disciplines sont cloisonnées, c'est pour ça qu'on fait de l'interdiscipline. Bon. Et donc ça, c'est partout dans tous les domaines, mais surtout, la psychanalyse, c'est pas la vie intellectuelle. La psychanalyse est une pratique. Alors la performance de Lacan, c'est qu'en même temps qu'il a produit ce rebond extraordinaire du freudisme, après la guerre, en même temps, il a réussi à élever la psychanalyse au niveau de la vie intellectuelle, par sa personne. Mais c'est terminé. Il n'y a plus d'intellectuels d'une manière générale, de grands intellectuels, mais chez les psychanalystes, encore moins qu'ailleurs. Il faut être lucide. Il y a toutes sortes de choses bien qui se font, qui s'écrivent, qui se disent chez nous, bien sûr. Mais il faut avoir un peu la mesure de la chose. Et donc, la question, c'est aussi que la psychanalyse, maintenant, elle a tendance à, là où elle survit uniquement comme pratique de la cure. Et tous les trucs qu'on ajoute autour pour essayer qu'on ne s'endorme pas trop, qu'on fait une école, bien sûr, ça a un effet sur les analystes, l'école. Je ne sais pas si à l'extérieur ça a un effet, mais sur les analystes, pour autant qu'il y a un peu d'école, oui. Mais pour justement essayer d'extraire la pratique de l'enlisement pratique, parce qu'il y a aussi un enlisement dans la pratique. La pratique de la parole, c'est formidable, mais il y a aussi une sorte d'assoupissement qui se produit, d'amortissement même de la pratique. Donc c'est plus la même époque, hein, c'est vrai, c'est plus la même époque. Et donc ceci pour dire que je ne crois pas que ce qui se passe tient au discours analytique. Ça tient à une évolution d'époque qui est très générale dans la vie intellectuelle. Et...
C'est vrai, mais mon idée, c'est quand même qu'il existe des créneaux où, disons, la rupture des liens. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre, en effet. C'est-à-dire, il y a un rapport de pouvoir qui a été dénoncé là, c'est-à-dire un rapport de pouvoir, mais, alors, c'est vrai que Lacan l'a fait d'une façon extrêmement astucieuse, c'est-à-dire que c'est un politicien hors pair. Hein, Lacan. Ah oui, il y a qu'à... Ça se juge au résultat.
Justement.
Au résultat de l'époque. Hein, c'est-à-dire, alors peut-être c'est sa personne, ou ce qu'il raconte, ou les deux, parce que quand même, voilà. Il a réussi une opération absolument extraordinaire. Alors, la preuve que c'était possible, c'est que la même opération s'est passée de façon complètement différente en Argentine, avec des gens qui avaient un certain talent, des personnes aussi, sans doute, qui ont réussi, quand même. Donc, qui ont réussi. Alors, la question est celle du rapport au pouvoir. Et c'est une question très importante. Alors là, je dois dire, je suis très, très content qu'elle soit soulevée, parce que, quand même, ce qui aujourd'hui est un vrai problème pour la psychanalyse, je dirais, c'est la disparition de la psychiatrie. Ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est pas seulement... Et là, et ça fait partie du coup de force de Lacan. C'est-à-dire d'avoir maintenu ça et d'avoir saisi ce point. Et le fait qu'aujourd'hui, ça se soit comme ça distendu au point d'entrer en opposition, il y a eu des tentatives à l'époque de l'école freudienne de Paris, des gens que Lacan a soutenus, mais qui manifestement n'étaient pas d'accord avec sa politique, et qui l'ont dit, d'ailleurs. Pas d'accord avec sa politique, et cette politique, elle impliquait. Elle impliquait le maintien, alors, d'un certain niveau de connaissance, je dis bien de connaissance et pas de savoir, puisque pour ne pas faire la confusion avec le savoir inconscient, un certain niveau de connaissance dans plusieurs domaines comme étant absolument essentiel. Ici, je parle de ça, mais on pourrait dire pratiquement la même chose avec la philosophie.
Religion.
Les discours de religieux qui sont quand même très aussi appauvris, hein, quelles que soient les religions, enfin, ça dépend. Et donc, c'est plutôt autour de ça que les liens avec les connaissances diverses. Bon, il faut trouver le moyen de les maintenir. Et ici, c'est vrai que la psychanalyse subit de plein fouet, si j'ose m'exprimer ainsi, les atteintes portées à la psychiatrie. Parce qu'en réalité, on avait le lien de la psychanalyse à la psychiatrie, par exemple, entre autres. Hein. Mais c'est très net dans ce qui était évoqué ici.
Il supposait qu'il y ait une psychiatrie avec laquelle on puisse parler. Il n'y a plus de psychiatrie.
Mais c'est ça le problème. Mais justement,
c'est pas que les psychanalystes ont renoncé. Au moins, Lacan, il a réussi à transmettre qu'il fallait s'intéresser à la psychose. Il a réussi à transmettre ça au psychanalyste lacanien.
Ça tient toujours.
Mais les psychanalystes qui veulent parler avec la psychiatrie actuelle, il n'y a aucun moyen. Il n'y a personne pour parler en face. Donc ça, ce n'est pas la faute des psychanalystes.
Mais on peut penser... Mais je veux dire, là où c'est évidemment le plus caricatural, c'est sur l'autisme, etc. Il y a quand même un rapport, hein, entre les modalités de la psychanalyse d'aujourd'hui et cet effet-là. C'est-à-dire que si, c'est toujours pareil, s'il y a une certaine résistance au niveau de la psychiatrie en France, parce que allez ailleurs et vous verrez que la situation est pire, absolument. Hein, et si elle est ce qu'elle est, il y a le côté Astérix, hein. Bon, s'il y a le côté Astérix un tout petit peu, et pour combien de temps? Pas très longtemps, hein, mais enfin un petit peu, c'est en partie à cause de la psychanalyse. Ça s'est beaucoup vu dans la psychiatrie, enfin, psychanalyse des enfants, hein, mais maintenant ça se. Les enfants ont grandi, disons, hein, donc ça s'élargit le problème, mais je crois que cette question est centrale. Bon.
On va partir d'autre chose.
Non, parce que... Oui, vas-y.
On peut parler fort ou...
Non, parce que... Il y a l'enregistrement.
Bon, alors, écoutez. Lacan disait qu'on était très critique vis-à-vis de la psychologie. Un jour, Lacan, il lâche le truc, il dit « Moi, je n'ai rien à dire sur la psychologie, on n'a pas de dialogue avec eux, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes structures. » Il dit « Voilà, on n'a pas les mêmes structures. » Car les psychologues ont des structures qui ne sont pas les nôtres. Nous avons un autre type de structure. Alors, avec l'histoire de la psychiatrie, comme tu dis, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi il faudrait soutenir la psychiatrie.
Je ne sais pas, dis ça.
Attends. Elle a des structures qui sont différentes. Hein. La psychanalyse, c'est autre chose que la psychiatrie. Et il y a des gens qui confondent les deux choses. Il y a un autre mouvement qui se produit actuellement et que vous connaissez et qui se passe, et là il faudrait être très attentif, c'est que maintenant dans les facultés, de, par exemple à Diderot, on enseigne dans des départements de psychologie la psychanalyse. De quoi il parle? Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller à l'université dans des départements de psychanalyse, de psychologie, pour enseigner la psychanalyse? Quel type de psychanalyse ces gens-là diffusent,
hein?
Ben, ils psychologisent la psychanalyse, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font, ils font absolument ça. Et ils se présentent comme des professeurs, qui sont professeurs, qui dirigent des thèses, qui dirigent des recherches et tout. La psychanalyse, ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout. Voilà, voilà. Bon.
On va peut-être arrêter là.
Juste le dernier mot à la présidente.
Je vous renvoie à un très joli texte de Lacan, le tout dernier, du 10 juin 1980, qui s'appelle Le malentendu. Il dit qu'on est du malentendu, quoi qu'il arrive. Le Nathan de Babel, c'est quand même une histoire qui ne cesse pas. Voilà ce que je veux dire.
Très bien.